Épisode 4 de la chronique sur l'éducation positive. Aujourd'hui, nous recevons dans les locaux de Mistral, Chloé Cresto. Chloé, bonjour, vous êtes maman de deux enfants, installée à Gap depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours sur la parentalité positive? On y va direct.
Bonjour, donc Chloé, je suis maman de deux enfants qui ont 5 ans et demi et 3 ans et demi, 4 ans et demi, pardon, ils ont 16 mois d'écart donc. Mon parcours est un peu autodidacte entre guillemets pour l'instant parce que du coup j'ai eu beaucoup de lectures en fait, j'ai eu la chance de pouvoir avoir du temps pour ma première, du coup j'ai beaucoup lu sur la parentalité positive, donc des livres de Catherine Dumontet-Kremer, de Gegen, enfin voilà tous ces auteurs-là qui écrivent sur la parentalité positive. Et du coup, j'étais un petit peu alertée sur la façon qu'on peut avoir d'éduquer nos enfants aujourd'hui. Puis, mon deuxième est arrivé et pour différentes raisons, notamment des problèmes de santé chez lui, j'ai eu beaucoup de difficultés à appliquer ce que j'avais pu lire dans les livres, les idéaux que je pouvais avoir. La réalité était bien différente compte tenu d'un déménagement, des problèmes de santé et de la vie réelle, quoi. Et donc, j'ai eu des grosses remises en question à ce moment-là. Et voilà, je me suis orientée vers un cycle de parentalité avec l'Ortuette sur Gap, qui m'a beaucoup aidée, notamment au niveau du partage et d'expérience, ce qui me semble vraiment essentiel dans la vie de parent. Si tout le monde pouvait avoir la chance de bénéficier d'un cycle comme celui-là, vraiment, je crois que c'est... Il faut que les gens prennent conscience que c'est super important de s'occuper de soi et de prendre conscience de ce qu'on transmet à nos enfants dans la vie quotidienne et pour leur vie quotidienne future.
Concrètement, est-ce que vous avez un exemple de difficulté de la vie quotidienne à partager ?
Je dirais l'enfant qui ne peut pas dormir pour X raisons, que ce soit pour des problèmes digestifs, des problèmes de santé, des problèmes divers et variés, qui ne peut pas dormir, qui hurle parce que ça ne va pas et on n'est pas forcément à même de l'aider, ou en tout cas on est là pendant un temps jusqu'au moment où l'humain qu'on est ne supporte plus et a besoin de passer le relais. Ça peut être ça, ça peut être plein d'autres exemples qui ne viennent pas forcément là, mais en tout cas pour celui-là, je pense que c'est indispensable de pas oublier qu'il faut pas rester seul et que l'idée c'est d'avoir un relais. Alors c'est pas toujours évident, le conjoint, la famille, les amis, je pense qu'il faut, enfin voilà, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes sur qui on peut compter quoi qu'il arrive et ne pas oublier de passer le relais, même si c'est deux heures de sommeil dans la journée, c'est 2 heures voilà, en quelqu'un en qui on a confiance, en qui on peut espérer avoir une écoute des besoins de son enfant et pour s'occuper de soi-même.
Pour éviter peut-être de perdre son calme aussi et de s'emporter alors que l'enfant n'y peut rien en fait de cette situation.
Absolument, mais de toute façon, je crois que c'est vraiment, il faut que les parents arrivent à s'occuper d'eux-mêmes dans le sens où il me semble que c'est essentiel de se connaître et de savoir jusqu'où on peut aller, et c'est ce qui est intéressant dans les cycles de formation à la parentalité, c'est que souvent c'est une remise en cause de, ou en tout cas une remise en question de notre propre enfance, de notre vie à nous, de nos réactions qui sont engendrées de toute façon par nos expériences d'enfants, nous-mêmes dans notre éducation. Et aujourd'hui, j'essaye de plus me connaître, et ça je crois que c'est à chacun de faire l'effort de savoir où sont ses limites, et l'enfant, enfin, et l'humain qu'on est a le droit d'avoir des limites, et voilà, mais il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir justement se dire là, ça va trop loin, il vaut mieux que je passe le relais, que je sorte de cette pièce, que je te laisse parce que je n'en peux plus et il faut que quelqu'un d'autre puisse s'occuper de l'enfant, quoi.
Mais pour revenir à ce que vous disiez juste à l'instant, j'ai lu, je vais citer le Peps Magazine avec un article de Catherine Dumontet-Crémer qui dit « Il me semble que dans notre vie de famille, nos réactions ont quatre origines possibles, nos habitudes culturelles, les automatismes qui sont la conséquence de nos souffrances d'enfants, nos instincts de mammifères et enfin une sorte de sagesse profonde. » Est-ce que vous reconnaissez là-dedans ? Est-ce que c'est, vous pensez que les quatre origines, vous les avez décelées, en tout cas, aujourd'hui ?
En ce qui concerne les habitudes culturelles, je dirais que nos réactions, elles sont forcément conditionnées puisqu'on est, on a été élevé dans une société voilà, qui est ce qu'elle est. Et dès l'école, les réactions sont plus ou moins adaptées. Mais en tout cas, l'environnement, dès la naissance, par exemple, on ne se comporte pas de la même façon instinctivement avec un garçon qu'avec une fille. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Mais par exemple, à l'école, l'école est très sexuée dans les apprentissages, etc. Donc ça conditionne forcément l'évolution des enfants et leur réaction future. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple ?
Est-ce que quand vous avez été jeune maman, dans votre entourage, on vous conseillait des choses que vous ne sentiez pas forcément instinctivement, vous ne vouliez pas faire comme ça ?
Ouais, alors ça, je dirais que c'est plus dans les... Pour moi, c'est plus dans les réactions et nos souffrances d'enfants, entre guillemets, parce que enfin, ça va avec, c'est un ensemble. Mais oui, ça, je pense que... C'est vraiment les messages qui arrivent aux jeunes parents de l'entourage, des amis, sont multiples et variés. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que les mamans savent ce qu'elles ont à faire avec leur enfant, quoi. Je crois que c'est essentiel de rappeler ça à toutes les mamans de la Terre, qu'en fait, il suffit juste de s'écouter et de savoir. Je veux dire, quand on dit « mais tu lui fais prendre des mauvaises habitudes, si tu réponds à tous ses pleurs », tout de suite, par exemple, voilà, alors les arrière-grands-parents peuvent avoir ce discours-là en disant moi je me souviens de ma grand-mère, donc de l'arrière-grand-mère de mes enfants, qui me disait mais quand tu vas avoir le deuxième, tu verras les mauvaises habitudes qu'elle aura pris ta première, tu vas pas t'en sortir, voilà. Ou d'autres exemples par rapport au fait de laisser pleurer pour s'endormir, etc. Et il faut qu'il apprenne à dormir. Je veux dire, à partir du moment où les mamans sentent à l'intérieur d'elles-mêmes qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'elles ne se sentent pas à l'aise avec cette ambiance, il faut qu'elle s'écoute, quoi. Je veux dire, voilà. Il faut pouvoir passer le relais, mais il faut aussi pouvoir se dire, eh ben oui, c'est moi qui décide et c'est moi qui fais ce que j'ai à faire. Je sais ce qui va bien ou ce qui ne va pas pour mon enfant. Je réponds à ses besoins. Il faut qu'on arrive à faire passer ces messages-là auprès des parents, jeunes parents surtout.
Je suis bien d'accord. Et oui, on enchaîne du coup avec les instincts de mammifères, c'est un peu ça en fait, cet instinct, ouais, maternel, absolument, de savoir si son enfant va bien ou pas, que par exemple peut-être des personnes extérieures, même le papa, ne ressent pas de la même façon que nous parce qu'on l'a eu à l'intérieur de nous.
Absolument, c'est évident que effectivement ça répond à un de nos instincts de mammifères, et comme la protection, comme l'envie le besoin de toute façon de la maman qui se sent pas à l'aise avec le fait que son enfant soit seul dans la chambre et qui écoute avec la boule au ventre ce qui se passe. Je crois qu'il faut qu'elle s'écoute et qu'elle aille le chercher et qu'elle le console et qu'elle écoute ses besoins, parce que c'est ce qu'elle lui dit, son enfant sait qu'il a besoin d'elle, quoi.
Voilà. On va faire une petite pause musicale, on se retrouve juste après. Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. I watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the back of the pie, I'm tingling, tingling.
you are too, what you are too reasonable and sensible. Therefore, when they go up against them, stop, stop, stop. We thought you had it, but no, no, no. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. Then I feel bad, seeing the moon is tumbling, tumbling, tumbling. Duplicate, duplicate, plastic bags in duplicate and triplicate. From the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but no, no, no. Exactly what you get up is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I stuck, there's no real reason.
De retour pour la suite de cette chronique sur l'éducation positive. Donc Chloé, est-ce que par rapport à des situations qui vous gênent dans la vie de tous les jours, des moments cruciaux ou qui posent soucis dans la vie quotidienne, est-ce que vous avez des exemples ?
Je dirais que dans la vie de famille, en tout cas dans la mienne, les moments un peu litigieux vont être plutôt les moments de coucher parfois, les moments de repas et les moments de préparation pour ceux qui vont à l'école, en tout cas les miens vont à l'école, donc les moments de préparation pour l'école le matin et éventuellement l'accueil du retour de l'école aussi. Peut être un peu litigieux parfois. Pour ce qui est du repas, par exemple, je dirais que souvent les enfants, ils ont envie de bouger, ils ont du mal à rester à table. Enfin, en tout cas, les miens, c'est un peu comme ça que ça se passe. Du coup, ils bougent beaucoup et c'est vrai que je pense que pour éviter d'avoir sans arrêt, de passer sans arrêt mon temps à leur rappeler que j'aimerais bien... Enfin, si, je leur rappelle que j'aimerais bien qu'ils restent à table avec nous, mais je leur dis ce dont j'ai besoin et ce que j'aimerais qu'il se passe. Et je crois que vraiment, c'est indispensable que les adultes arrivent à exprimer leurs envies, leurs besoins, à exprimer ce dont ils ont besoin pour que les enfants puissent y répondre. Parce que malgré tout, les enfants, je crois, n'ont pas envie de décevoir leurs parents. Ils n'ont pas envie de les gêner. Et je crois que si on leur a appris à exprimer nous-mêmes nos émotions, nos besoins, nos envies, eh ben, ils seront plus aussi à même de les exprimer plus tard, eux aussi. Et du coup, ils entendent en tout cas... alors, c'est vrai qu'ils n'entendent pas comme on s'attend à ce qu'ils les entendent. Je ne leur dis pas « j'aimerais tellement que vous soyez à table avec moi » et ils reviennent de suite. Ça n'arrive jamais. Ça, c'est pas possible.
Ah bon ?
Mais par contre, je me dis que mon rôle de parent, c'est de répéter, de faire passer les messages, de répéter et voilà, et de leur exprimer à nouveau ce dont j'ai besoin. Donc, en l'occurrence, j'aimerais qu'on passe un temps ensemble à table tous les quatre pour discuter, voilà, et que quand ils sortent de table, et ben pour moi c'est difficile parce que les conversations sont coupées, parce que voilà, et j'aurais aimé partager ces moments-là avec eux, voilà.
C'est... Parce que le repas refroidit et parce qu'après il faut le faire réchauffer ou
Alors, moi, le repas qui refroidit, ben, il refroidit, mais je le ferai pas réchauffer. Bon, chez moi, c'est comme ça. Après, peut-être que je suis un peu dure, mais en général, ils savent aussi que si ça refroidit, c'est pas. Enfin, ils assument, ou alors ils vont aussi. Enfin, je prône assez l'autonomie. Donc, s'ils ont besoin, soit ils vont demander de l'aide, voilà. Mais voilà, ça fait aussi partie des règles et de l'ambiance que on essaye d'instaurer, c'est-à-dire que bah parfois ils sortent de table et nous du coup on a continué à avancer le repas et le dessert voilà est déjà fini pour nous, pas pour eux. Je leur dis là c'est enfin voilà tant pis et le dessert soit vous venez maintenant, soit je leur laisse quand même le choix, mais il y a un moment donné on sort de table et si le dessert ils sont pas allés le chercher ou ils l'ont pas voilà ils sont déjà autonomes là-dessus. Tant pis quoi. Je leur rappelle plusieurs fois et puis tant pis. Sinon, on prendra un autre moment. Ce sera le 4 heures et puis ou le goûter. Voilà. J'ai eu l'exemple hier. Ils étaient en train de jouer. On leur a dit plusieurs fois, venez manger votre dessert. Ce serait chouette parce que nous, on va avoir fini. Et ils sont pas venus. Ils avaient trop envie de jouer. Ils nous disaient, oui, mais non. Ok. Bon, il y a un moment où on sort de table et on range. Et donc ça a été un petit peu compliqué à entendre, mais on est resté sur cette idée-là. Voilà. Après, ils avaient déjà bien mangé. Alors après, moi j'ai aussi remarqué que les enfants, quand ils sont à table, qu'ils ont faim, ils mangent quoi. Quand ils commencent à plus avoir faim, ils sortent de table, ils bougent. Et donc s'ils sont sortis de table, c'est aussi qu'ils n'ont pas forcément besoin de plus quoi. Voilà.
Par rapport à la gestion des conflits. Est-ce qu'il y en a, je pense qu'il y en a entre frères et sœurs, comment vous gérez ça? Comment ne pas se tromper dans cette gestion?
Alors, c'est pas toujours évident, mais il me semble qu'il faut qu'on fasse confiance à nos enfants. Et l'adulte, en général, pas forcément les parents, les adultes en général, à l'école c'est pareil, amènent rarement les enfants à gérer eux-mêmes leurs conflits. Et ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans, en fait, j'en suis convaincue. À partir du moment où l'adulte amène sa solution à lui, à un moment donné, il intervient dans la relation des enfants en conflit, en l'occurrence. Et de toute façon, en amenant sa solution, il va forcément être... lésant entre guillemets pour un des deux enfants et celui donc il y a de l'injustice qui se crée, celui qui se sent lésé, sa relation s'effiloche avec son parent puisque il y a eu prise de décision pour l'enfant. Un exemple très concret, un des deux enfants veut jouer avec un ballon, l'autre veut le même, enfin le truc classique. Au lieu de retirer le ballon, parce que nous en tant qu'adultes on sait que c'est toujours celui qui l'a, et bien on intervient en disant tu peux peut-être un peu lui laisser. Alors que celui qui l'a, il l'a, il estime que c'est juste qu'il l'ait, et voilà. Et nous, adultes, on a proposé notre solution, donc il y a de l'injustice pour celui qui vers qui on s'est interposé. Et je crois que si on les invite, eux, à trouver des solutions, par exemple en leur disant est-ce que vous pensez pouvoir trouver une solution pour que tous les deux vous soyez heureux, par exemple, pour que tous les deux vous soyez contents, pour que tous les deux vous puissiez jouer avec sérénité. Et peut-être que... Et des fois, on a des surprises. Des fois, on a des grosses surprises parce que ils sont pleins de ressources, nos enfants. Et il faut vraiment qu'on arrive à leur faire confiance et à lâcher prise là-dessus en les invitant à trouver des solutions eux-mêmes sans que l'adulte n'ait intervenir pour l'un ou l'autre des enfants, et ils sont très surprenants.
Chloé, vous avez suivi un cycle de formation, on va dire, avec Laure Thuette sur la parentalité positive. Comment ça s'est passé concrètement ?
Alors, Laure, elle propose des soirées ou peut-être maintenant aussi des journées. En tout cas, des rencontres entre parents. C'est toujours le même groupe sur les 8 séances. Il me semble que c'était bien 8 séances. On aborde différents thèmes donc à chaque séance. Et je trouve que c'est vraiment le premier pas pour échanger, pour ne plus rester seul, pour être dans le partage d'expériences. Et donc c'est à GAP, c'est facile pour les GAPensés en tout cas. Et pour moi, ça a été vraiment un moment de partage d'expérience et de remise en question personnelle et de travail sur soi, parce qu'en fait c'est là-dessus aussi qu'on travaille, et d'éclairage divers et variés, d'échanges. Alors après, les groupes sont tous différents, c'est jamais la même chose, ça veut dire qu'on peut refaire ce cycle plusieurs fois parce que on évolue de toute façon en fonction de nos enfants. C'est eux qui nous font grandir. Et donc, je crois qu'on peut y retourner de multiples fois sans jamais s'ennuyer. Voilà, pour moi, c'était vraiment des moments intéressants et enrichissants. Après, j'avais eu beaucoup de lectures avant cette expérience-là. Et donc, d'un point de vue pratique, j'avais déjà entendu un peu tous ces discours, mais je crois vraiment qu'il ne faut pas y aller en se disant qu'on va apprendre des choses. En fait, on va apprendre des choses sur soi, plus qu'apprendre des choses sur comment il faut qu'on élève nos enfants. C'est vraiment, on va apprendre des choses sur soi, ce qui va nous aider à accompagner nos enfants pour la suite. Voilà.
Mais je pense que c'est la clé, hein. La clé de se remettre en question pour avoir une éducation bienveillante pour nos enfants.
Absolument. C'est ça.
Et merci beaucoup, Chloé, d'être venue. Et bonne continuation dans votre formation de consultante.
Ça marche. Merci, avec plaisir.